C'est la chronique Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, Monsieur Larochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Le conflit à Gaza, c'est votre sujet. Le conflit dure depuis 19 mois déjà. Il a fait plus de 53 000 victimes du côté palestinien, dont une grande partie sont des femmes et des enfants, en plus de bombarder sans relâche une population qui vit dans des tentes de fortune entourées de ruines. Israël est accusé d'utiliser la faim comme une arme de guerre, et cette tragédie se poursuit sans perspective de règlement pour l'instant, bien malheureusement.
Oui, effectivement, la situation actuelle, en fait, est vraiment épouvantable. Les images de la souffrance des habitants de Gaza sont carrément insoutenables. Que l'on qualifie ce qui s'y passe d'action génocidaire, d'épuration ethnique ou de catastrophe humanitaire, peu importe. Depuis le 2 mars, l'armée israélienne a bloqué toute entrée de nourriture, de médicaments, d'eau et de pétrole, sauf un peu d'aide là dans les derniers jours. C'est, selon les experts, l'intégralité de la population gazaoui, soit environ 2,1 millions de personnes, qui fait actuellement face à un risque critique de famine. En vertu des derniers chiffres d'une analyse du risque de famine qui a été faite par des organisations internationales qui portent sur une période qui date déjà depuis quelque temps, c'est-à-dire du 1er avril au 1er mai, 93% de la population à Gaza, soit 1,9 million d'individus, sont confrontés à une crise alimentaire ou allant au-delà. 1 million de ces Gazaouis sont en situation d'urgence et 500 000, soit 22%, sont en situation de catastrophe, un stade où la faim et la malnutrition entraînent un risque mortel. Il faut aussi mentionner que les prix alimentaires ont atteint des niveaux absolument fous, jusqu'à 3 000% d'augmentation sur, par exemple, la farine de blé, depuis février. Il faut aussi savoir qu'avant l'attaque du Hamas d'octobre 2023, le territoire de Gaza était en grande partie autosuffisant, avec 40% de terres arables. Mais aujourd'hui, au moins 75% des terres agricoles ont été détruites par les forces israéliennes. Le blocus avec la reprise des bombardements le 18 mars est présenté par le gouvernement israélien comme un ensemble de mesures destinées à faire pression sur le Hamas pour libérer finalement les otages israéliens qu'il détient.
Les pressions internationales sur Israël s'intensifient, mais ça ne semble pas faire reculer jusqu'à maintenant le premier ministre Netanyahou.
Non, pas du tout. Il semble que le plan derrière cette offensive là, actuelle de l'armée israélienne viserait à démolir ce qui reste des infrastructures civiles de Gaza, de concentrer la population palestinienne dans une zone réduite au sud, puis de la forcer à quitter l'enclave comme seul espoir de survie. L'État hébreu et ses publics planifient déjà cette dernière étape et chercheraient avec les Américains à trouver un territoire pour exiler tous ces Palestiniens. Netanyahou, d'ailleurs, a déclaré, je pense même pas plus tard qu'hier, qu'Israël allait réoccuper Gaza. D'autre part, ses appuis politiques suprémacistes veulent y envoyer éventuellement des colons israéliens. C'est vraiment hallucinant quand on pense qu'on est en 2025. Cela équivaudrait à un nettoyage ethnique, selon l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch et l'organisation là, des Médecins sans frontières indique, nous assistons en direct à la création des conditions pour une éradication des Palestiniens à Gaza. Fin cite.
Alors, la communauté internationale commence à se réveiller.
Oui, en effet, rompant avec les déclarations habituelles et les condamnations du bout des lèvres des derniers mois, un communiqué inédit a été publié lundi par les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et même du Canada pour ramener les pendules à l'heure. Macron, Steinmeier et Carney ont prévenu en effet qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face, encore là, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les guillemets, c'est-à-dire aux actions scandaleuses, fermez les guillemets, du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou à Gaza, menaçant de mesures concrètes s'il ne cesse pas son offensive militaire et ne débloque pas l'aide humanitaire. D'autre part, les trois États ont indiqué être déterminés de reconnaître un État palestinien pour contribuer à la réalisation d'une solution des deux États, la fameuse solution des deux États. L'Union européenne, quant à elle, va lancer un réexamen de son accord d'association avec Israël. Sa chef de la diplomatie a même fait état d'une forte majorité au sein des États membres en faveur de cette mesure. Cet accord date de 1995 et il régit la relation politique entre Israël et l'Union européenne, ainsi que la libéralisation de leurs échanges commerciaux. Fait intéressant, donc, il stipule à son article 2 que les signataires s'obligent au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Si la Commission européenne estime qu'Israël ne respecte pas l'accord, elle devra proposer une série de mesures appropriées qui pourraient aller jusqu'au gel ou à la suspension de l'accord. Les États de l'Union européenne devront valider ou non les mesures proposées. D'autre part, le Royaume-Uni a décidé de suspendre ses négociations avec Israël sur un accord de libre-échange. Encore rien, par contre, du côté d'Ottawa en ce qui concerne d'éventuelles mesures. En parallèle, 22 pays ont exigé d'Israël une reprise complète de l'aide à Gaza, et ce, immédiatement, et demandant qu'elle soit organisée par les Nations unies. Ces pays indiquaient, entre autres, qu'ils ne pouvaient soutenir l'initiative américano-israélienne d'une nouvelle organisation qui s'appelle Gaza Humanitarian Foundation, qui prendrait en charge un nouveau mécanisme de distribution d'aide humanitaire. En fait, les responsables israéliens cherchent à fermer le système d'aide qui existe actuellement et qui est géré par les organisations internationales.
Netanyahou, avait annoncé dimanche une levée partielle de ce blocus.
Oui, mais lundi, il y avait seulement 5 camions d'aide humanitaire qui étaient entrés et apparemment, dans les derniers jours, il y en a d'autres 90 camions qui l'auraient fait, qui seraient entrés, mais c'est loin d'être suffisant parce qu'avant la guerre, il y avait 500 camions qui entraient à Gaza tous les jours.
Et que fait Donald Trump, le seul qui pourrait vraiment stopper cette folie meurtrière?
Bon, ben vendredi dernier, il a déclaré qu'il s'intéressait beaucoup à Gaza parce qu'on y mourait de faim. Mais il a fait porter le blâme sur le Hamas. Son vice-président, J.D. Vance, quant à lui, aurait apparemment annulé une visite cette semaine en Israël pour ne pas cautionner, du moins publiquement, l'extension des opérations militaires. Mais franchement, on a l'impression que les Américains ont donné leur feu vert aux opérations militaires d'Israël et que Trump s'en lave les mains.
Alors, dans ce contexte, M. La Rochelle, il y a une conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie saoudite pour relancer une solution de paix au conflit israélo-palestinien dite à deux États, qui va avoir lieu en juin, du 17 au 20 juin. Est-ce une lueur d'espoir?
Écoutez, c'est une résolution qui avait été adoptée en décembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies qui avait décidé de convoquer cette conférence-là de haut niveau. Il y a déjà près de 150 pays qui reconnaissent l'État de Palestine, qui actuellement siège comme observateur aux Nations unies, mais n'est pas membre à part entière parce que ça n'a pas été accepté par le Conseil de sécurité. Récemment, donc, en mai 2024, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont reconnu la Palestine et c'était suivi par la Slovénie. Et il semble que d'autres pays s'apprêteraient à le faire, dont possiblement le Canada, la France et le Royaume-Uni, des pays du G7, et donc ce seraient les premiers pays du G7 qui le ferait. Il faut cependant se rappeler que en juillet 2024, le Parlement israélien a voté à une très large majorité, en fait 68 voix contre 9, le projet de la création d'un État palestinien. Donc, c'est une excellente...
Je pensais le rejet, mais en même temps, c'est un rejet également, là.
C'est ça, parce qu'à ce moment-là, même si la communauté internationale reconnaît la Palestine, le gouvernement, en tout cas les Israéliens, le Parlement israélien rejette complètement cette idée et qui irait dans le sens là, de la création des deux États. Donc, cette conférence, à mon avis, est excellente et en fait est essentielle pour faire avancer la paix et cette solution des deux États. Il faut espérer qu'elle aura du succès, mais le contexte actuel au niveau international n'est pas tellement encourageant. Et il faut s'attendre à ce qu'Israël et probablement Washington vont tout faire pour que cette conférence échoue. Mais entre-temps, d'ici là, les pertes humaines et les destructions se poursuivent à Gaza, à moins qu'il y ait un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens. Mais à ce stade, le Hamas ne semble pas tellement disposé aux concessions. En conclusion, la réaction récente de certains dirigeants internationaux est positive et encourageante. Mais depuis le début de cette guerre à Gaza, par manque de courage ou d'autres raisons inavouables, et même sinon de la complicité des États-Unis, la communauté internationale aura malheureusement permis le développement de cette tragédie. En fait, la passivité des États était quasi générale. Je pense qu'éventuellement, leurs dirigeants devront y répondre devant un tribunal, mais le tribunal de l'histoire.
Alors, François Larochelle, l'ancien diplomate canadien, merci. J'allais dire merci quand même, là, parce que c'est une chronique noire, très noire, noire foncée.
C'est difficile de faire autrement parce que les médias en parlent beaucoup et effectivement, je pense que cette situation actuelle est totalement inacceptable. Et d'ailleurs, même le Canada le reconnaît, donc c'est difficile de passer à côté.
Bien d'accord. Merci, M. Larochelle. À la prochaine.
C'est pas qui vous remercie. Au revoir.